Président du groupe de réflexion de Shift Project, membre du Haut Conseil pour le climat. C'est vrai que cet été, on a beaucoup parlé de l'Europe, de la France, de la sécheresse, de la canicule. Mais à l'image du Pakistan, c'est toute l'Asie qui a connu un été de catastrophe climatique.
Oui, il n'y a pas que l'Asie, c'est un peu partout. L'ouest des États-Unis vit une sécheresse qui ne cesse de croître. Je vous rappelle qu'il y a un an, il y a eu des épisodes au Canada qui étaient un peu inhabituels. Le Brésil, enfin le bassin amazonien, est en train également de vivre des épisodes secs. Enfin, c'est partout.
C'est partout. Et ce sera pire.
Oui.
Parce que ce qu'on a vu cet été, l'été 2022, sera peut-être le moins pire des étés qui s'annoncent.
En fait, quelque chose qui a eu beaucoup de mal à passer auprès de votre profession, c'est l'idée que le changement climatique est quelque chose d'inarrêtable. C'est l'idée qu'une fois qu'on voit, c'est trop tard pour faire machine arrière. Pendant très très longtemps, votre profession s'est arrêtée sur la question qui est-ce que ce qu'on voit déjà, c'est le changement climatique? Mais en fait, ce n'était pas le problème. C'est comme se demander si quelqu'un qui fume, qui a 30 ans, le matin où il a une petite toux, c'est le tabac ou s'il a la crève. En fait, ce n'est pas le sujet, on s'en fiche. Le sujet, c'est qu'est-ce qui va lui arriver s'il continue à fumer. Bon. Et là, c'est exactement pareil. Donc en fait, on est en train de découvrir, un, que ce qui avait été annoncé est en train de se produire, et deux, on est en train de réaliser que non seulement ce qui avait été annoncé est en train de se produire, mais qu'on ne pourra pas faire machine arrière. Bah oui. Ce que vous voulez que je vous dise.
Et pourtant, certains continuent encore de relativiser, d'expliquer que oui, voilà, il y a eu des sécheresses auparavant.
Tant qu'ils auront droit à ce fauteuil de temps en temps, ils le feront.
Il continuera le feu. Ça veut dire qu'il faut...
Ça veut dire qu'à partir du moment où vous ne les invitez pas, ils n'existent pas, ces gens-là. Le Radio France vient de prendre, pas plus tard qu'hier, un engagement. Ils viennent de publier un engagement dans lequel ils disent qu'ils vont former l'ensemble de leur rédaction aux enjeux environnementaux, sur les faits, hein, pas sur les conduits à tenir, et qu'ils vont s'interdire de dévier de la science. Bon. Il y a très longtemps que tous les médias auraient dû prendre cet engagement. On aurait gagné beaucoup de temps.
On en a perçu beaucoup ici. Je ne m'en souviens pas. Et dans les médias grand public, à part une chaîne d'info qui commence par C et qui se finit par News, je ne vois pas
Allègre,
beaucoup de...
Allègre a eu son compte serviette au monde pendant
un temps. Oui, il y a 30 ans.
Il y a 10 ans. On n'en est pas encore si loin. Il faut bien voir que... Et par ailleurs, ce qu'on a coutume d'appeler le climato-scepticisme, c'est l'expression d'un déni. En fait, c'est des gens qui redoutent les conséquences du problème au sens de si le problème est réel, alors on va me demander des efforts. Et comme ils n'ont pas envie de faire des efforts, quelle que soit la nature des efforts, ils peuvent être matériels, ils peuvent être intellectuels, ils peuvent être culturels, ils peuvent être moraux, à ce moment, c'est quand même, vous savez, c'est ce vieux proverbe Shadok, c'est s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème.
Et si je peux me permettre, il y a les climato-sceptiques. Mais il y a effectivement ce déni, et ce déni peut se traduire, comme ce dont on parlait tout à l'heure, par le zapping. Moi, j'ai encore le souvenir, en fait, quand il y a eu les 15 000 scientifiques du monde entier qui ont publié leur cri d'alarme dans le monde, je crois que c'était le 13 novembre 2017, et dans tous les journaux du monde, je me souviens que pendant 15 jours, 10 jours, je suis trop généreux, la France entière n'a parlé que de ça. C'est-à-dire qu'on ne parlait que du cri d'alarme des scientifiques. Et trois semaines après... Eh bien, on n'en parlait déjà plus du tout. Donc, il y a le zapping aussi. C'est-à-dire que là, on sort de cette.
Là, il y a une prise de conscience. Est-ce qu'il y aura un avant, un après
ou... faire durer cette prise de conscience.
Oui, il va y avoir partiellement un après. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a ce genre d'épisode, il y a des effets de cliquet quand même. Donc, il en reste quelque chose derrière. Mais il n'en reste pas autant que l'émotion que vous avez sur le moment. C'est-à-dire que dans 4 mois, les gens vont avoir froid, parce qu'il n'y a pas de gaz russe. Et à ce moment, le réchauffement climatique, ils s'en souviendront un peu moins.
Vous, ce que vous prenez, c'est évidemment une révolution pour essayer de quoi ? Pas d'inverser, mais d'éviter le pire ? Parce qu'on a bien compris que là, maintenant qu'on voit les effets, c'est trop tard pour arrêter.
Il y a deux choses. Il y a quand même faire baisser les émissions le plus vite possible, parce que tant que les émissions continuent, ça veut dire qu'on aggrave le problème. Donc il y a quand même un sujet, il faut essayer de modérer le problème.
Parce que c'est cumulatif.
Parce qu'un ordre de grandeur qui a très peu circulé, c'est qu'après arrêt des émissions, il faut attendre plus de 10 000 ans pour que le surplus de CO2 qu'on a créé dans l'atmosphère s'évacue. Plus de 10 000 ans. Donc c'est bien ça. Donc on ne remettra jamais le climat dans l'état dans lequel il était quand on l'a trouvé en entrant. Jamais, ça n'arrivera pas. Après arrêt des émissions, vous avez l'océan qui va continuer de monter pendant des milliers d'années. Ce qu'on appelle la cryosphère, c'est-à-dire le Groenland et l'Antarctique, va continuer à réagir. En fait, c'est essentiellement à cause de ça pendant le même laps de temps. Vous avez des écosystèmes qui vont continuer à se dégrader pendant des siècles. après arrêt des émissions. Donc, il faut bien comprendre que, un, il faut baisser les émissions le plus vite possible, et ça, ça demande un accord planétaire, puisque les émissions, sont, c'est miscible, hein, cette affaire. Et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est adapter nos activités aussi bien ou aussi peu mal, je ne sais pas comment il faut le dire, que faire se peut, à ce qui va nous tomber sur la figure de toute façon. C'est-à-dire à la dégradation annoncée, parce que les émissions ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain, demain matin. Ça, c'est si une comète tombe dessus que ça arrive, mais sinon, non. Ça va décroître progressivement, ce qui veut dire que quand même, la dérive va augmenter. La dérive climatique va continuer d'augmenter. Et donc, ce qu'on a vu cet été sur le problème de la disponibilité en eau, la souffrance de la forêt, le problème sur les cultures, les infrastructures qui commencent à avoir des problèmes à cause de problèmes de dilatation, rétractation des argiles, etc., tout ça ne va faire que s'amplifier. Donc il faut dès maintenant réfléchir à la façon dont on peut, au mieux ou au moins mal, adapter nos activités de telle sorte que ça passe la rampe avec ce genre de choses. Et je considère que c'est plus urgent que de déployer la 5G ou de faire le métaverse. Voilà,
dans mon jugement personnel. S'il faut établir un sens de priorité.
Pourtant, c'est pas ce qu'on fait en ce moment, hein.
C'est pas ce qu'on fait.
Bah non, monsieur le maire, il a fait un nombre infini de posts LinkedIn sur les licornes. Je l'ai jamais vu faire un post LinkedIn sur l'adaptation au changement climatique.
Mais vendredi, par exemple, il va y avoir un conseil de défense consacré à l'énergie. C'est une étape qui rappelle, oui, bien sûr, les conseils de défense sanitaire qui a été consacré au Covid. Et là, ils emploient quand même un champ lexical assez particulier, champ lexical guerrier. Écoutez.
Quand c'est la mobilisation générale, on doit tous partager l'effort.
Si nous devions en arriver au rationnement, les entreprises seraient les premières touchées.
Organiser le rationnement de l'énergie à destination des entreprises.
Rentrer dans un scénario de rationnement.
L'heure est grave, mais elle n'est plus au constat.
Mobilisation générale.
Il faut se mobiliser, il faut rationner, l'heure est grave. Quand même, ils sont là, ils réagissent. Oui. C'est pas trop angoissant, c'est comme ça? C'est ce que vous attendiez?
Alors, ce que j'attends, personnellement, moi, c'est une réaction structurée et organisée. Donc, quand vous êtes face à un problème important, en général, il y a un certain nombre d'étapes, que ce soit un problème dans sa vie personnelle, un problème dans sa vie professionnelle, etc. On passe toujours par les mêmes étapes. Il y a une première étape qui est de bien détourer le problème, c'est-à-dire d'être capable de bien le définir, de bien l'expliciter, etc. On en est encore très loin aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous demandez aujourd'hui à l'essentiel de la classe politique, mais rigolez pas, à l'essentiel de la classe médiatique, c'est pareil.
Non, mais je rigole pas correctement.
Je souris parce que j'entends parler l'ingénieur qui est en vous.
Mais dans votre vie personnelle, vous faites exactement pareil. Si vous allez voir votre banquier et que vous avez un problème d'argent, vous allez commencer par essayer de définir le problème d'argent. Selon que vous lui devez 1 euro ou 1 million d'euros, c'est pas exactement pareil. Bon. Donc là, c'est exactement pareil. Il faut avoir des ordres de grandeur en tête. Il faut être capable de bien expliciter le problème. J'ai fait partie des gens qui ont signé une tribune il y a quelques mois en proposant que le gouvernement soit formé.
Ça y est, c'est fait. Hein.
Ouais, enfin, c'est
fait.
Il y a
un séminaire demain.
Oui, mais un séminaire, moi j'ai proposé 20 heures. Et 20 heures, c'est le talon bas. Là, c'est un séminaire, ils vont être formés une heure. Et puis ils vont causer aux médias pendant 3. Donc, non, on n'est pas en train de parler de la même chose.
Donc il faut créer un conseil scientifique comme ça avait été
pareil. Conseil scientifique, il faut qu'il se forme, il faut qu'il retourne à l'école. Quand vous êtes ministre, ça ne fait pas de vous quelqu'un de compétent sur des sujets que vous n'avez jamais vus pendant vos études. Donc il faut juste que.
Ils ont géré la crise du Covid en se référant aux scientifiques.
C'est très
parce qu'ils n'avaient pas ces connaissances-là. Donc peut-être qu'ils peuvent vous écouter.
Sauf que la crise du Covid, vous arrivez à la gérer sans savoir ce que c'est qu'une boulangerie, un gars ou une centrale électrique. C'est quelque chose que vous pouvez détourer et que vous pouvez isoler, mais je veux dire par là, la définition du problème ne suppose pas de comprendre le fonctionnement de l'ensemble de la société. Mmh. Là, il se trouve que l'énergie, ça a fait l'ensemble du fonctionnement de la société. Vous portez du pétrole sur vous, là. Moi aussi, du reste. Dès que vous avez une fibre synthétique. Cette table, elle n'a pas été fabriquée avenue de Breteuil, elle a été fabriquée je ne sais pas où ailleurs. Elle est venue ici avec un camion. D'accord ? Donc, en fait, le pétrole est absolument partout dans nos vies. Il faut comprendre le système. Et c'est beaucoup plus difficile, malheureusement, que de comprendre ce que c'est qu'une épidémie et comment on la traite. C'est systémique. Ça a fait l'ensemble de la société. Ça concerne les retraites, la diplomatie, l'Ukraine et le pouvoir d'achat. Ça concerne toutes ces choses-là. Et donc aujourd'hui, on n'a pas le niveau de connaissance nécessaire dans le monde politique, je le dis, sur ce genre de sujet. Et donc la première étape que j'attends d'un gouvernement sérieux, c'est qu'il passe par là. Bon, on va voir, avant de faire des conseils de défense, il faut qu'ils passent par là, il faut qu'ils comprennent le problème à traiter. Est-ce qu'une fois que le problème sera réglé avec M. Poutine, il y aura de nouveau du gaz ou il n'y en aura pas ? Parce que les gisements s'épuisent. Est-ce qu'une fois que le problème sera réglé avec M. Poutine, il y aura de nouveau du pétrole ou il n'y en aura toujours pas assez ? Parce que il faut qu'ils arrivent à comprendre le problème. Et aujourd'hui, je redis, on en est très loin.
Alors, puisque la classe politique n'est pas bien formée, un exemple d'une bêtise répétée à satiété qui vous énerve ou de l'idée reçue qui vous agace le plus ?
Par exemple, le défaut d'ordre de grandeur sur les gestes d'économie d'énergie.
Ah. On en parlait hier, par exemple.
Par exemple, le Wi-Fi, c'est pas le premier geste auquel vous devez penser. Ils auraient mieux fait de conseiller aux Français de ne pas prendre l'avion pour partir en vacances.
On peut déployer la 5G, alors, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure.
Non, justement, déployer la 5G, c'est quelque chose qui va dans la mauvaise direction.
D'accord.
Aujourd'hui, l'empreinte carbone du numérique, c'est à peu près 4% des émissions mondiales, et ça augmente de 5 à 10% par an. Donc c'est quelque chose qu'il faut modérer, donc il faut l'arrêter, quoi.
Donc il faut dire aux Français d'arrêter de prendre l'avion et soutenir l'industrie de l'aviation et Air France, qui vont forcément subir une décroissance.
Alors, si la question posée, c'est est-ce qu'on arrive à tout changer sans rien changer, la réponse est non. Mmh.
Bon. Donc ça passera par une décroissance, en tout cas dans certains secteurs.
C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que si on veut changer le mode de fonctionnement de la société en faisant en sorte que les activités restent très exactement les mêmes qu'aujourd'hui, l'emploi de tout le monde reste très exactement le même qu'aujourd'hui, et le mode de consommation, on n'y arrivera pas, c'est absolument évident. Donc il faut organiser, et c'est bien pour ça qu'il faut s'y prendre à l'avance, parce que organiser une transition sur les emplois, par exemple, si on veut que ça se passe sans heurts, c'est quelque chose qui prend des décennies, ça ne prend pas une semaine. Là, l'alternative, c'est quoi ? L'alternative, c'est très exactement les mots qui ont été prononcés tout à l'heure, c'est-à-dire quand l'hiver fut venu, on est très dépourvu, et donc on se rend compte que l'énergie sur laquelle on comptait, on ne l'a pas, parce que c'est de toute façon comme ça que ça se terminera
à terme.
Et à ce moment, on est obligé de prendre des décisions brutales à court terme qui, elles, sont très déstabilisatrices socialement. Il vaut beaucoup mieux anticiper. Sur l'aérien, par exemple, au Shift Project, on a fait un travail avec des tas d'ingénieurs de l'aéronautique, je suis désolé, encore plein d'ingénieurs, sur comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte que le secteur aérien tienne sa part dans les accords de Paris. C'est-à-dire que les émissions du secteur aérien baissent de quelques pourcents par an tous les ans. Et la conclusion des ingénieurs du secteur, c'est quelles que soient les avancées techniques, on ne peut pas s'en sortir sans faire baisser le trafic. Aussi, un peu, tous les ans. Bon. Et une deuxième conclusion majeure de notre travail, c'était plus on attend et plus ça sera socialement difficile. Dit autrement, si demain matin on organisait une baisse de 1% du trafic par an, socialement, ça se gère. Parce que les sorties naturelles du secteur, parce que, etc.
C'est handicapable, c'est amortissable.
Mais si vous faites 0,0000 et puis que le jour où Poutine vous coupe le robinet du pétrole, vous faites moins 30, voilà, vous avez de la casse de façon significative. Or, c'est bien ça qui va finir par se passer. Si on ne prend pas le taureau par les cornes, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de troisième voie dans cette histoire.
Et ce qui est intéressant, c'est que les deux crises qu'on vient de traverser, la pandémie et la guerre en Ukraine qu'on traverse encore, finalement, exigent de nous exactement ce qui est exigé de nous par la transformation écologique et par la révolution qu'on doit produire dans nos modes d'échange, de production et de consommation.
Il y a une affaire de rythme dans cette histoire.
Oui, bien sûr qu'il y a une affaire de rythme, mais ce que je veux dire, c'est que je me suis toujours posé la question, pourquoi on n'engage pas ça, et on n'engage pas ces transformations profondes. Et en fait, il y a toujours cette question de l'urgence. C'est-à-dire que les gens n'acceptent des changements que dans une urgence absolue. Et donc là, ce qu'il faut essayer d'expliquer aussi, c'est que finalement, quand, face à la guerre en Ukraine, on comprend qu'on est drogué au gaz et au pétrole russe, eh bien, s'abstenir, se défaire de cette addiction aux substances fossiles, eh bien, c'est ce qui est demandé par la transformation écologique. De la même manière, on s'est rendu compte pendant le Covid qu'en fait, on était incapable désormais de produire quoi que ce soit nous-mêmes et qu'on était totalement dépendant du déménagement du monde en Chine. Que l'ensemble des biens de notre consommation, y compris pour les hôpitaux, étaient produits à l'autre bout de la planète. Et donc, ça remettait en cause profondément le dogme absolu du libre-échange. Or, si on veut mener cette transformation, il va falloir sortir. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est le combat qu'on essaye de mener au Parlement européen, en particulier dans la Commission commerce international, c'est sortir de cette idéologie du libre-échange total qui fait que vous consommez un poulet produit au Brésil, j'allais dire fabriqué parce que les conditions, c'est quasiment les mêmes, élevé au Brésil, où l'ensemble de vos biens, y compris d'ailleurs ce qui est notre investissement actuel. je vous connais, donc en fait...
Il faut que Jean-Marc Jacovici puisse répondre.
Voilà, y compris quand on fait le Green Deal, par exemple, on subventionne l'appareil productif chinois, parce que les appareils photovoltaïques...
Je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, on est dans la mondialisation jusqu'au cou. C'est-à-dire que dans cette pièce, vous n'avez pas un objet qui ne comporte pas une matière première qui ne vienne pas de l'autre bout de la planète. En France, on n'a plus une mine de cuivre, plus une mine de fer, plus une mine d'étain, plus une mine de plomb, plus une mine de nickel, plus une mine d'aluminium, plus une mine d'or, plus une mine d'argent. On n'en a plus une mine, d'accord ? Alors, rapatrier les poulets en France, c'est pas le plus dur. parce que mettre des poulets, ça c'est facile. Mettre des mines de cuivre en France, vous n'y arriverez pas. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, or, ce qui a fait la mondialisation, c'est le pétrole. C'est-à-dire, ce qui a fait la mondialisation, c'est la facilité à déplacer des objets partout sur la planète, et ça, ça porte un nom, ça s'appelle le pétrole. Ce qui veut dire que dans un monde sans combustible fossile, ça sera de toute façon un monde démondialisé. Donc la caméra qui est en train de me filmer, vous allez la payer 50 fois son prix actuel. C'est ça, le monde
démondialisé. Elle vous filmera bien, j'espère.
Non, mais c'est, il faut bien comprendre que c'est ça, la démondialisation. Ça, et que d'aller vers un monde dans lequel les flux se ralentissent, c'est quelque chose qui, si on le fait en une semaine, c'est le bazar. Et c'est très difficile d'incarner un bazar futur à éviter pour faire en sorte que on pousse les gens dans l'organisation de ça en 30 ans plutôt qu'en une semaine. C'est ça qui est très, très difficile. Et comme c'est très difficile à incarner, du coup, vous avez énormément de gens qui résistent parce que, et mon emploi, et mon gagne-pain, et ceci, et cela, et mon mode de vie, est évident. Et puis lui, d'ailleurs, il consomme plus que moi, donc il devrait commencer par y passer avant moi, etc. Donc, et tous ces débats-là sont des débats légitimes, du reste. Et je le redis, aujourd'hui, on a un appareil politique qui, faute de connaissances sur le sujet, est très mal à l'aise pour mener tous ces débats.
Merci beaucoup, Jean-Marc Jancovici. Vous restez tous les deux avec nous. D'autres sujets d'actualité.